Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Lucille Como, Emmanuel Dupuis et Charles Ardenne pour parler ensemble de la Traviata de Verdi, dirigée par Michele Maiotti, mise en scène. Simon Stone, c'est à l'Opéra de Paris. Opéra Monde, c'est une exposition à voir jusqu'au 27 janvier prochain au Centre Pompidou-Metz. Il y aura un coup de cœur d'Emmanuel Dupuis pour une sortie en DVD de Vanessa, de Barber, mise en scène Kiss Warner. Le journal de la dispute de Lucille Como portera en titre, en une, est-il possible de monter Einstein on the beach autrement qu'à sa création? Nous ouvrons cette dispute avec la Traviata de Verdi, dirigée par Michele Maiotti, mise en scène Simon Stone, à voir jusqu'au 16 octobre à l'Opéra Garnier, l'Opéra de Paris. Un des opéras les plus populaires du répertoire, qu'on pouvait peut-être imaginer démonter par le spécialiste des réécritures théâtrales. Simon Stone, c'était un rendez-vous qui promettait, c'était les débuts en plus du metteur en scène australien à l'Opéra de Paris. Rappelons qu'il s'agit là d'un opéra en trois actes sur un livret de Francesco Maria Piave, d'après La Dame aux Camélias, d'Alexandre Dumas fils. Cet opéra a été créé à la Fenice de Venise il y a 166 ans, 1853. Violetta est courtisane, sa santé, on va le voir, est fragile. Elle rencontre enfin le grand amour, Alfredo Germont. Elle choisit de renoncer à la vie mondaine parisienne, mais elle devra toujours, par amour, faire un autre sacrifice bien plus grand encore. Je laisse des petits points pour qui ne connaîtrait pas l'issue de ce drame, il faut bien le dire. Avant de développer votre critique sur cette production, une première impression sur celle-ci, Charles Ardenne.
Cette hashtag Traviata 2.0 2019 du 21e siècle, c'est une modernisation qui pour moi tourne assez rond.
Lucille Como.
Mais le seul fait que Charles puisse en parler comme ça est un problème.
Emmanuel Dupuis.
C'est à peu près la 25e fois que je voyais la Traviata. Ouais. Et malgré cela, Simon Stone a réussi à me captiver, à me faire voir l'ouvrage autrement, ce qui en soi est déjà un tour de force.
Alors d'ailleurs, vous allez expliquer pourquoi, Emmanuel, en décrivant un peu l'espace scénique, ou en tout cas le procédé, et puis nous donner les parties prises de la mise en scène de Simon Stone.
Alors, l'espace scénique, en fait, c'est un décor tournant dont deux faces servent d'écran pour des projections vidéo. Enfin, des projections vidéo, mais aussi des projections d'email, des projections de...
Ça, c'est le micro, là.
Des projections
ça fait autant de bruit que la tournette,
texto,
à peu près.
À peu près, oui. Alors, parce qu'effectivement, ce décor tournant avait un petit défaut, c'est qu'il était un petit peu bruyant. Mais, en tout cas, c'est un décor, un dispositif qui permet des changements de lieu extrêmement nombreux et extrêmement rapides. Ce qui participe, on y reviendra, au rythme de la narration. Pendant l'ouverture, on apprend que Violetta est une sorte d'influenceuse du web, enfin une star du web, une collègue de Kim Kardashian, en quelque sorte. Mm-hmm. On apprend aussi qu'elle est atteinte d'un cancer et on va donc assister en direct à ses derniers jours dans le Paris branché d'aujourd'hui.
Voilà qui est bien dit. Charles Ardenne, alors maintenant pour rentrer dans le vif de cette critique, on parle, c'est vrai, dans un premier temps on écoutera de la musique quand même dans un instant et celle qui tient le rôle-titre, Pretty Yende, mais parlons quand même de cette mise en scène, de cette proposition de Simon Stone, Charles.
Donc en effet, comme l'a très bien dit mon camarade, ce qu'on voit ce sont deux murs sur lesquels il y a des projections et un plateau qui tourne, et ce qui fait qu'à chacune des révolutions, on a une nouvelle surprise, comme un peu un petit œuf surprise qui nous présente un nouvel élément de décor et aussi un nouvel élément de la vie d'une influenceuse sur le web, les boîtes de nuit qu'elle parcourt, les salons avec des voitures de luxe, des fontaines à champagne, etc. Mmh. Ça marche aussi bien au second acte quand il retourne à la campagne et on a la surprise tour à tour d'avoir une vache à lait véritable, un peu la même surprise que quand il y a eu le grand bœuf de Romeo Castellucci pour Moïse et Aaron, mais dans un tout autre...
C'était un taureau, hein, je vous rappelle.
Oui, un taureau, en effet. On a aussi une chapelle complètement candide pour que le père Germont vienne demander à Violetta de sauver l'honneur de la famille. Et en effet, c'est assez dynamique, même si ça grince un peu, ça nous montre un peu cette frénésie moderne. Mmh. Et je tiens à dire que à quel point j'ai trouvé les vidéos qui sont projetées bien faites, fluides, correctement représentées sur les pans de mur. Ça dynamise. On a des avalanches très très amusantes et ludiques de cœurs qui sont tous les faux cœurs que lui envoient ses pseudo fans par millions, hein, à la Traviata. Et donc, en un mot, pour résumer ce qui, selon moi, marche le mieux dans cette mise en scène, c'est que c'est une véritable modernisation, mais qui a réfléchi, qui est conséquente, qui est intelligente. C'est pas juste, on va mettre la Traviata de nos jours. C'est une réflexion sur ce qu'est le personnage, sur ce qu'est Traviata, sur ses sources d'inspiration, sur le mythe, sur la Marie du Plessis, sur, vous l'avez dit, la Dame aux Camélias, qui vendait leur charme à l'époque au 19e siècle. Et ça nous montre qu'aujourd'hui, le statut de la femme a, hélas, peu évolué et qu'elles en sont encore pour beaucoup à vendre leur charme, à vendre leurs images et toutes ces influenceuses qui vendent le nombre de leurs abonnés et leurs images pour ensuite faire des campagnes de parfums, des maquillages, la publicité. Et à la fin, le dernier acte est très très beau. Très, très beau.
Alors, dernier acte très très beau, si les révolutions marchent, pour préciser que Charles Ardenne et Emmanuel Dupuis sont allés le soir de la première, tout s'est bien passé, Lucille Comeau et moi y étions en matinée dimanche. Il y a un problème de tournette qui s'est grippé. Et nous avons donc appris par la suite que nous avons manqué trois tableaux et que du coup, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu. On a bien vu qu'il y avait un problème. On n'a pas eu le final que vous avez eu, donc je le précise, parce qu'on n'a pas vu jusqu'au bout. Mais enfin, quand même, on a vu, on va dire, 90% ou 85,5% de cette mise en scène telle qu'elle devait être. Lucille Comeau.
Oui, l'idée de départ, elle est bonne. En effet, le passage paraît assez logique, même peut-être trop facile entre la demi-mondaine, disons, de la Traviata et l'influenceuse contemporaine. Moi, je crois que ça suffit pas. Ça suffit pas à la fois parce que dans le travail de la mise en scène, mais on reviendra sur certains peut-être des éléments que vous avez cités, Charles, la vache, la chapelle, etc. Je ne comprends pas du coup le rapport. Moi, pour moi, il y a un gros problème à l'acte 2 entre l'ancrage parisien très, en effet, reconnaissable. Il y a même un vélo Uber orange qu'on voit dans les rues de Paris.
Il n'est pas Uber, hein, parce que comme bon parisien, ils n'ont pas trouvé. Ah oui, Uber, pardon. Je croyais que vous disiez Vélib. Oui, oui. Ils n'ont pas trouvé de Vélib, comme tous les Parisiens. Donc ils sont rabattus sur Uber.
Reconnaissable du Paris d'aujourd'hui. Du coup, que vient faire la chapelle ici? Que signifie ce geste d'Alfredo qui se met à faire du vin, à piétiner du raisin dans une grande cuve à vin? Tout ça, pour moi, n'a pas grand sens. Et surtout, je me suis vraiment posé la question de la transposition de la tension. Parce que certes, la femme publique, c'est intéressant. Passer de la demi-mondaine à l'influenceuse, on est dans les deux cas, dans la question de ce que c'est qu'une femme publique. Sauf que c'est pas du tout fouillé, en fait, cette idée-là. Et que la question de l'honneur, la question du scandale, la réputation, tous ces termes-là qui sont à l'origine de la tension de l'intrigue, ne sont pas vraiment traités. On ne peut pas comprendre dans le contexte parisien des influenceurs du web le problème que constitue par exemple Violetta pour la famille de Germont. Pour moi, c'est un problème. Du coup, on perd en intensité dans la tension, on perd en émotion. Moi, j'ai été très très peu ému. En effet, j'ai pas vu le tableau final. Apparemment, il y a un effet de retour sur les tableaux du début qui doit être assez saisissant. Mais même jusqu'à la fin de l'acte 2, j'ai vraiment eu un problème d'émotion, tout simplement. Moi, je pleure à toutes les Traviata. Là, j'ai pas versé une seule larme parce que je ne crois pas à cette transposition. Par ailleurs, ultra contextualisé à ce point-là. Un ouvrage, à mon avis, c'est le dater d'emblée. Et ça inscrit son obsolescence dans la mise en scène. Et moi, ça me pose un problème, vraiment.
Enfin, la mise en scène, elle n'est pas faite pour durer des siècles et des siècles, contrairement
certes,
à l'ouvrage.
Mais là ça pose un problème de perception, même. C'est un truc temporel un peu bizarre. C'est que quand on imagine que la chose est complètement datée, ça crée des problèmes d'identification, de suivi de l'attention et de la dramatisation de l'ouvrage, vraiment.
Bon, pour retourner cet argument comme un gant. Oui. Emmanuel Dupuis voulait vous répondre, je pense.
Oui, alors sur plusieurs points. D'abord, moi, j'ai pas du tout été gêné par le changement d'atmosphère entre l'acte 1 et l'acte 2, parce qu'au contraire, c'est vraiment c'est écrit dans le livret. Il y a vraiment un changement.
La vie rurale,
très net, voilà.
La vie mondaine.
Violetta et Alfredo.
La nature.
Cette vie rurale, elle n'existe pas. Là, pour le coup, il y a un énorme problème de connexion.
Non, mais c'est aussi aussi caricaturale que l'instagrammeuse. Enfin, je pense que la ruralité aujourd'hui, c'est on va faire des fromages de chèvre.
Voilà, c'est jeune bobo qui retourne à la campagne.
En grande velours.
C'est pur, c'est une image. Oui, mais justement, c'est fait exprès pour être une carte postale, une image d'Épinal.
Emmanuel Dupuy avait la parole.
Et d'autre part, alors effectivement, moi, il y a toujours un point qui me gêne dans les Traviata actualisées. C'est effectivement qu'on ne comprend pas le conflit entre la passion amoureuse et les conventions morales. C'est vraiment le vrai ressort de l'ouvrage. Sauf que là, on le comprend parce que Simonson a trouvé la parade. Et on nous apprend que la sœur d'Alfredo est fiancée à un prince saoudien. Donc du coup, le conflit existe, mais il se déplace. Ça devient un conflit de civilisation entre l'islam et l'Occident. Un conflit également entre deux conceptions de la condition féminine. Et c'est par rapport à cette opposition que Violetta sera amené à se sacrifier.
Parce que si Alfredo reste avec cette scandaleuse, le mariage de la sœur ne se fera pas. C'est ce qui nous est expliqué par Simon Stone. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'étais tout à fait enthousiasmé par l'acte 1. Vraiment, première entracte, j'étais vraiment très, très heureux. Je croyais que ça allait vite. Alors, ça va vite, hein, certes, il est très court. Ce premier acte, ça fonctionne extrêmement bien. Et ensuite, j'ai quand même une nette, très, très, très nette baisse de tension au deuxième acte. Parce que moi, je pense que Simon Stone, s'il a beaucoup réfléchi à sa mise en scène, à sa construction, je trouve que ça fonctionne bien. Même les SMS échangés ou les messages échangés, parce que c'est pas forcément par SMS qu'on échange de nos jours. Moi, je pense qu'il y a un gros problème de direction d'acteur. Parce que je les ai trouvés quand même chacun un peu laissé à l'abandon, avec un problème d'incarnation pour à peu près tous les rôles, et qu'on se retrouve finalement, pour le coup là, à une façon très ultra datée de faire l'opéra, c'est-à-dire on les met face public à l'avant-scène et ils envoient leur air. Moi je trouvais qu'il y a quand même un énorme problème de direction d'acteur, vous avez l'air un peu d'accord avec moi.
Oui, je suis d'accord avec vous, et notamment sur la baisse de tension à l'acte 2, enfin surtout à partir du deuxième tableau de l'acte 2, la fête chez Flora par exemple, ça s'est fait de façon totalement presque conventionnelle, et c'est en totale rupture à ce qu'on a vu auparavant, qui nous a plutôt tenu en haleine et qui nous a surpris. Là, j'ai l'impression que Simon Stone était à court d'idées, et effectivement, à ce moment-là, on voit les faiblesses de la direction d'acteur.
Charles Ardenne, pas d'accord?
Si, mais Lucie, tout à fait.
Ah
mais,
bon?
Si, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, mais moi j'en vois aussi un peu les causes dans les interprètes eux-mêmes, parce que le père, Giorgio Germont, il est interprété par un chanteur qu'on connaît régulièrement pour ses problèmes de raideur, on va dire, au niveau du jeu d'acteur. Et puis,
il s'appelle Ludovic Tézier, voilà, on va peut-être le citer quand même.
Le pauvre, il a encore une fois une sacoche en cuir. Enfin,
ouais, là, il n'est pas aidé par les costumes et les accessoires.
Et puis moi, je suis allé regarder.
Ouais, bon, enfin, il envoie.
Ah bon.
Par ailleurs, on va en reparler.
Exceptionnel. Rien que pour ça, il faut y aller. Et puis, je suis allé remonter un peu le fil, le mur, les stories de l'héroïne, Pretty Yende, pour la nommer. Et ça doit être très difficile pour elle de jouer justement ce rôle pour dénoncer un peu les problèmes des réseaux sociaux quand elle, mais c'est pas que elle, hein, c'est la plupart des jeunes chanteuses aujourd'hui, se comportent comme ça sur les réseaux sociaux, se montrent, s'affichent dans des poses.
Bah, où est le problème?
Bah, le problème, c'est que quand on est rentré dans cet univers, quand on est cette représentation, quand on joue à ce point-là avec son image, c'est difficile ensuite d'être dans une mise en scène qui est là pour la dénoncer, pour prendre du recul, pour la critiquer.
On va l'écouter peut-être Pretty Yende avant de poursuivre cette discussion autour de la Traviata de Verdi dirigée par Michele Mariotti, dont on va parler dans un instant après avoir écouté Pretty Yende.
Tomba al portone de
Pretty Ende, la Violetta de cette Traviata en ce moment à l'affiche de l'Opéra de Paris. Il y avait un débat pendant qu'on finissait d'entendre cette air. Joli, pas très joli.
Si, c'est joli.
Non, si, très joli.
Non,
très
non, joli. Oui. Non, joli. C'est que joli, avait l'air de dire Charles Ardenne.
Ben, évidemment, et puis moi, le premier problème que ça me pose, c'est une inquiétude, c'est de voir, et c'est pas la seule, à quel point les chanteuses prennent des rôles immenses, des Everest musicaux, comme on les appelle, que cette Traviata très très tôt, avant qu'elle soit forcément prête. Pretty Ende fait une très très belle prestation, mais moi j'aimerais bien pouvoir l'entendre encore 5, 10, 15, 20 ans dans différents rôles et qu'elle n'avait pas trop vite en besogne. Clairement, pour ce rôle.
Ouais, enfin, pas chanter la Traviata à 55 ans.
Oui, et puis, c'est pas Electra non plus. Hein, c'est,
bon, non, mais justement, mais si elle veut chanter Electra un jour, il faut pas qu'elle chante
Traviata si jeune.
Bon. Emmanuel Dupuis ?
Oui, non. Après, bon, c'est une Violetta atypique parce que ça n'est pas du tout une voix latine. Elle n'a pas du tout une technique italienne. La vocaliste n'est pas très bien assurée. La prononciation de l'italien est un peu floue. Donc ça fait quand même beaucoup de défauts. Mais en même temps, voilà, c'est quand même un chant très nuancé. Très, et ce sont des nuances qui vont avec l'évolution des sentiments. Alors, on l'a entendu là dans cet extrait. Il y a quelque chose d'immédiatement. Il y a une émotion sincère qui est immédiatement touchante.
Alors. Et
en particulier à l'acte 3. Alors, un scolaire oh.
Ah, moi je trouve ça vraiment très
laissez finir peut-être Emmanuel Dupuis.
Non, non, moi j'ai été assez agréablement surpris parce que franchement, effectivement, j'étais un peu dubitatif de voir que Pretty Ende chantait sa première Traviata. Mais j'étais quand même agréablement surpris et je l'ai trouvée assez touchante à l'acte 3.
Alors, émotion sincère, moi j'aurais dit émotion très bien travaillée.
Ah. Exactement.
Lucille Comeau.
Oui, enfin, pour chanter la Traviata, il faut travailler quand même. Hein.
C'est... Oui, non, mais à ça, on entend le travail.
Ça, alors, c'était
moi,
pour contrebalancer le sincère.
Oui, bien sûr, mais moi, j'entends tout le travail. Je vois quelqu'un qui maîtrise absolument, un peu au forceps, voilà. Un rôle qui n'est en effet pas forcément encore fait pour elle. Et du coup, par exemple, là, on l'a entendu très bien, les pianissimo qu'elle sort, ils sont très artificiels. Je sais pas, c'est comme si... on la voyait en train de travailler le rôle. Et c'est pas inintéressant en soi, sauf que c'est pas ça qu'elle veut faire. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème à la fosse et qui est à peu près le même, de forcer sur la nuance, de trop faire varier les nuances et les tempos de manière très artificielle, ce qui fait que moi, pour le coup, j'étais pas émue une seule seconde. Pas par elle, en tout cas. Après, on parlera des autres chanteurs. Mais vraiment, elle ne m'a pas procuré d'émotion particulière.
Bon, moi, j'ai pleuré à l'acte 1. Le duo des poubelles, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Mais non, au-delà de ça, Michele Mariotti, parce qu'on peut en parler tout de suite, le chef, moi j'ai eu aussi de gros problèmes à entendre ça, notamment ça joue par moments très très fort. Il faut quand même que... Enfin, il laisse aucune chance quand même aux gens qui sont sur le plateau et qui essayent de faire passer leurs notes au-dessus de la fosse de Garnier, qui n'est pas la plus grande du monde. Il y a effectivement un tempi très curieux de par-ci par-là. Alors Emmanuel va répondre, mais Charles Ardenne d'abord.
Mais justement, moi, ce qui m'a plu à la fosse, c'est que toutes ces nuances qui parfois même en effet sont brusques, ces changements, mais qui sont vraiment des fois dans une certaine brutalité d'intention, d'accent, mais ils restent maîtrisés, ils restent expressifs, ils sont voulus, ils sont volontaires, alors que chez Pretty Ende, les effets qu'elle fait souvent sont pour cacher des petits manques encore vocaux dans sa voix. C'est pour ça qu'elle a quelques sanglots qui sont pas seulement expressifs et qui sont pas du tout sincères, moi j'ai trouvé, qui sont faits pour compenser des limites vocales.
Emmanuel Dupuis, ton travail de l'orchestre.
Alors, je crois que nous n'étions décidément pas à la même représentation.
Je vous confirme.
Parce qu'au contraire, moi, j'ai énormément aimé la direction musicale de Michele Mariotti. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu les cordes de l'opéra sonner de façon aussi chaleureuse, aussi soyeuse. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de toujours très élégant qui relevait de la musique de chambre, dans le travail des équilibres au sein de l'orchestre.
C'était pas le même soir, c'est sûr.
A priori, non. Et en même temps, effectivement, beaucoup de nerfs, mais il en faut pour animer. C'est un chef de théâtre, il en faut pour.
Le nerf et la fanfare, il y a une mesure.
Ouais, mais enfin, écoutez Toscanini ou Carlos Kleiber, vous allez être encore plus surpris. Hein,
j'ai écouté déjà, mais là, je parle de cette production. Peut-être un mot, Lucille Comeau, sur le chef, et puis après sur votre coup de cœur pour Benjamin Bernheim, peut-être. On n'a pas encore parlé de lui.
Oui, alors qui n'est pas vraiment bien servi au niveau de la direction d'acteur, parce que le pauvre, il ne sait vraiment pas quoi faire de lui-même. Bon, là, je pense que c'est pas vraiment
bon acteur,
de sa
c'est
faute.
Possible aussi. Bon,
les deux options sont possibles et sont d'ailleurs cumulables, hein, malheureusement.
On va parler de sa voix, là.
Mais moi j'étais, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Je le découvrais totalement, Benjamin Bernheim. Et bon, lui aussi, il y a de la fragilité. On sent que ce n'est pas hyper prêt, mais pour le coup, il ne masque rien. C'est parfois pas totalement là, mais au moins, il y a une sorte de. C'est plus fragile, mais c'est plus émouvant, vraiment, dans la voix.
Charles Ardanne.
Oui, Bernheim, c'est un des Alfredo en vue de nos jours, et on voit pourquoi. Il a tous les moyens du rôle, il y a la puissance et la douceur, déploiement, articulation, et puis une couleur légèrement pincée de ténor tout à fait verdien italien qui sied pleinement au personnage.
Allez, un dernier mot d'Emmanuel Dupuis pour conclure cette dispute sur la Traviata.
Sur Benjamin Bernheim, effectivement, c'est un de nos plus grands talents, c'est un timbre magnifique, une diction magnifique, il a énormément de facilité. Mais peut-être un peu trop, parce que moi j'ai trouvé ça, franchement, le soir de la première, un peu brut de décoffrage, un peu pas très nuancé, comme s'il était, il se laissait trop facilement emporter par ses élans amoureux, et donc voilà, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim.
Peut-être la faute à la mise en scène quand même, là.
Peut-être qu'il n'était pas gâté par la mise en scène, c'est possible.
Bon, cette Traviata. Elle se donne jusqu'au 16 octobre au Palais Garnier, l'Opéra de Paris, mais sachez qu'il y a quand même plusieurs distributions. Il y a même aussi deux chefs pour cette production, dont selon le jour où vous irez, vous n'entendrez peut-être aucune des voix dont nous venons de parler de ce soir. Nous n'y sommes pour rien. Essayez de bien viser pour découvrir cette Traviata de Verdi, dirigée par Michele Mariotti, mise en scène par Simon Stone. Nous allons ensuite parler dans la dispute de l'exposition Opéra Monde, du DVD de Vanessa de Barber, et puis il y aura le journal, bien sûr, de Lucille Comeau.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec une exposition à découvrir au centre Pompidou-Metz jusqu'au 27 janvier, son titre Opéra Monde, son sous-titre La quête d'un art total. Son commissaire Gislain Roussel, les recherches ont été menées par Anne Horvath dans sa présentation. Opéra Monde précise bien qu'elle se veut plus qu'une exposition consacrée aux scénographies d'opéra réalisées par des artistes, mais qu'elle entend surtout montrer comment les arts visuels et le genre lyrique se sont nourris mutuellement et parfois même influencés de manière radicale. Opéra Monde, c'est au centre Pompidou, Metz. Un premier sentiment sur cette exposition, Emmanuel Dupuis.
C'est une exposition que j'ai trouvée étrange, imparfaite, mais finalement assez attachante.
Charles Ardenne.
J'ai trouvé une exposition passionnante, parsemée de chefs-d'œuvre, mais hétérogène, voire hétéroclite.
Oh là là, vous employez des mots à plein de syllabes. Lucille Comeau.
En faisant des distinctions bizarres.
Oui.
Alors moi, j'ai trouvé que ça donnait plus envie d'aller à l'opéra que la plupart des programmes d'opéra, ce qui est déjà pas mal.
C'est pas mal. Allez Charles, une petite description très générale du parcours de l'exposition pour comprendre ses principes.
Oui, donc l'exposition propose un parcours à travers l'histoire et le monde de l'opéra, Opéra Monde, à la recherche d'un art total, ce qui est donc une référence à une théorie, une pratique esthétique, notamment rattachée à Wagner, qui envisage l'opéra comme étant l'art qui peut réunir, unifier, voire sublimer tous les autres arts. Le parcours de cette exposition a été... on nous dit scénographié par Margareta Szczesniak, qui est l'inséparable collaboratrice de Warlikowski sur les scènes lyriques. Et donc, elle présente d'abord...
Et théâtrale,
exactement.
Vous savez qu'il fait du théâtre aussi, Warlikowski?
Ah oui, j'ai vu qu'il est... Il sera à la colline, c'est ça la...
Notamment.
L'exposition donc présentée comme un opéra, vous avez une ouverture et puis ça finit par une coda et puis il y a 10 actes qui entremêlent différents médias, différents opus, différentes périodes, esthétiques, concepts, idées. Voilà, chaque salle avec une thématique différente, le tout dans une ambiance sonore transversale un peu gloubi-boulga, hélas.
Oui, compliqué toujours le son dans les expositions de musique. Emmanuel Dupuis alors.
Oui, par rapport à la dimension sonore, je rejoins tout à fait Charles Ardenne, puisque cette exposition se déroule dans une grande salle et les cloisons entre les différentes sections ne sont pas des cloisons étanches, donc du coup on entend une espèce de brouhaha qui mêle à la fois les vocalises de la Reine de la Nuit.
Surtout.
Et Saint-François d'Assise et Shadow on the Beach, etc. Donc
c'est la reine de la nuit qui gagne toujours.
C'est la Reine de la Nuit qui domine un peu, c'est vrai, mais à la longue c'est un peu fatigant. Sinon, par rapport à la scénographie, honnêtement, j'ai été un petit peu déçu. Je m'attendais à autre chose d'une scénographe qui d'ordinaire montre un talent si original sur les scènes d'opéra et de théâtre. C'est bien fait. C'est
pas le même métier. Hein.
Mais j'ai trouvé ça assez ordinaire d'une certaine manière. Ensuite, j'ai été un petit peu décontenancé par le parcours lui-même, parce que ce n'est pas un parcours chronologique, c'est plutôt un parcours thématique, mais ce sont des thématiques assez lâches, assez subjectives. Mais petit à petit, ce qui me semblait être une limite m'est apparu plutôt comme une qualité. On n'est pas dans une exposition qui se veut didactique, mais on est plutôt pris dans une sorte d'expérience artistique. Cette exposition se présente elle-même comme une expérience artistique et y participe autant l'image que la vidéo, que le son. Que dire de plus. Donc, alors évidemment, oui, l'intérêt principal, ce sont les collections, c'est les objets que l'on peut découvrir, et notamment ces incessants allers-retours entre l'image et la musique, notamment dans la première salle qui est consacrée au lien entre la peinture et l'opéra. Là, on savoure en particulier les dessins que Roland Topor avait conçu pour les décors du Grand Macabre de Ligeti. Dans la même section, on voit comment Stravinsky a conçu son opéra Zorak's Progress d'après des tableaux de William Garth. Et à l'inverse, comment David Hockney s'est à son tour inspiré de cet opéra pour en dessiner les décors. Donc voilà, ce sont ces incessants allers-retours entre l'image entre les arts d'une certaine manière que cette exposition interroge de façon souvent très fertile.
Lucille Comment?
Oui, la subjectivité dont vous parlez, Emmanuel, je pense que c'est vraiment une forme d'intelligence. Et puis, c'est en effet pas une exposition sur l'opéra, c'est pas le lieu, c'est vraiment une exposition sur le caractère plastique de l'opéra. Et de fait, je suis pas sûre que c'était une très bonne idée d'avoir les extraits musicaux. Je pense qu'il aurait fallu complètement assumer le fait qu'il n'y ait absolument aucune musique dans les espaces. Après, il y a des vidéos, donc on peut accéder à des systèmes de micros et de haut-parleurs pour les écouter. Mais c'est vrai que la musique est presque de trop. Moi, ça a vraiment eu un effet vraiment de réenchantement du domaine et aussi presque de regret, mais qui du coup débouche aussi sur un espoir de voir des vraies grandes créations d'opéra et de constater à quel point l'opéra a été un lieu pour l'avant-garde à toutes les époques et également un lieu de contribution des arts. Ça, c'est très très bien montré, je trouve, même dans les accrochages, dans la manière dont les œuvres, les outils, les maquettes, les objets de travail sont mis en relation les uns avec les autres. Je pense par exemple à il y a une lettre entre la société Gaumont et le directeur de l'Opéra de Paris sur la confection de grandes plaques de verre qui devaient servir à projeter des images au fond de scène de l'Opéra de Paris. Et c'est d'une précision technique et surtout c'est adressé quasiment par le directeur de la Gaumont au directeur de l'Opéra de Paris. On imagine les enjeux techniques qui sont à l'origine d'immenses machines artistiques qui demandent une sorte d'intelligence, qui est une intelligence de contribution entre les arts. Et ça, en fait, à part au cinéma, aujourd'hui, c'est un lieu où on voit assez peu ce travail-là. Moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est le travail. Donc, tout ce qui est, tout ce qui est dessin préparatoire. Bon, là, vous parliez des dessins de Topor, ils sont magnifiques. Les motifs de vêtements jusqu'à la couleur des étoffes, la matière des étoffes. Il y a les dessins de décors de, alors que j'ai complètement découvert d'un certain Laszlo Nagy pour les contes d'Hoffmann. Qui datent des années 30, donc vraiment dans une esthétique du Bauhaus, dans des tons gris, noir, rouge, qui ressemblent presque à des partitions, mais sauf que ce sont des dessins de décors et d'éléments de décors qui sont absolument magnifiques, qui font œuvre en elles-mêmes et qui présagent à chaque fois de l'immensité de la création que ça a pu être. Moi, ça m'a vraiment rassurée, entre guillemets, sur l'opéra et aussi, je me dis, mais on a raté des trucs, mais incroyable, le Topor Ligeti, mais qu'est-ce que ça devait être? C'était fou. Ce truc.
Charles Ardenne.
Comme disait Lucille tout à l'heure, en effet, en rapportant cette exposition à un programme d'opéra, je pense qu'il faut oublier le programme, le prétexte, l'histoire d'Opéra Monde, œuvre d'art total, et juste en effet profiter des chefs-d'œuvre qui sont dans cette exposition. Donc on a du Chirico, du Hockney, on a cité Topor, il y a Kokoschka, Malevitch, Kandinsky, qui ont tous eu un rapport en effet de création, d'intergénération avec l'opéra, puisque en s'inspirant de l'opéra, en faisant des décors, en faisant des costumes, et là tous les éléments de l'opéra sont montrés, ça a stimulé leur créativité. On a aussi la réciprocité avec des compositeurs comme Schoenberg, évidemment Wagner, qui se sont inspirés des arts plastiques. On a aussi un parcours vis-à-vis des images et des images animées, aussi les films, le cinéma, combien il a fait des chefs-d'œuvre d'après l'opéra, en repensant des opéras. On a tous les matériaux imaginables, néon, gouache, peinture, bronze, argile, même des cheveux, toutes les formes, aussi bien des photos, des dessins, des esquisses, ça brasse très large et ça nous rappelle que, et c'est là où en effet l'opéra peut être une œuvre d'art total, que aussi une mise en scène, ça combine plein de chefs-d'œuvre à part entière. Quand on voit le Moïse et Aaron de Castellucci, on a en plus le temps de le voir de près, de voir des éléments de décor, de l'admirer comme une œuvre esthétique à part entière. Le temps s'arrête en fait sur cet élément scénographique qui d'habitude est animé et vivant dans le temps de l'opéra sur les scènes de théâtre.
Alors, au-delà de tous ces chefs-d'œuvre, parce qu'il y en a vraiment de nombreux, des œuvres qu'on aimerait, alors quand ce sont des œuvres de plasticiens bien sûr, mais même il y a des maquettes qui sont absolument sublimes, qu'on voudrait avoir accroché à ces murs, mais il faut quand même, je trouve, rendre grâce à Stéphane Gislain-Roussel, qui est le commissaire de cette exposition, d'avoir fait une chose assez simple, c'est-à-dire que c'est pas une exposition qui se la raconte sur des thématiques un peu tordues pour essayer de raconter quelque chose. Voilà, le propos est simple, le découpage est simple, et ce qui nous donne à voir, ce sont des pièces parfois très rares, souvent très belles, et effectivement toujours stimulantes, je trouve. Lucille Como ?
Oui, et parce que c'est technique, c'est-à-dire que c'est pas le mythe qui est mis en valeur, même si c'est la question, évidemment. Il détricote totalement le mythe comme une construction artistique avec tout ce que ça demande de technicité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le public est envisagé. Il y a des œuvres qui sont des œuvres du public. Il y a des toutes petites pièces de Nina Childress, notamment, qui sont des vignettes du public de la Scala de Milan, comme des petits zooms en flouté, comme elle fait d'habitude. Ils sont absolument magnifiques. Il y a un Argentin, Guillermo Giudica, qui a fait il y a deux aquarelles et un collage en imaginant la perception des artistes sur scène, des grandes maisons d'opéra, donc il y a l'Opéra Bastille, il y a le Met aussi je crois, qui sont du coup complètement distordus avec des couleurs, des effets de couleurs qui débordent. Tout ça est quand même extrêmement intelligent, avoir par exemple pensé à intégrer la question du public et qu'est-ce que c'est aussi de voir une salle d'opéra depuis la scène, je trouve ça assez intéressant.
Tout petit mot.
Exactement. Vu qu'il n'y a pas, comme vous l'avez très bien dit, de discours historique, esthétique qui s'impose au fil, on peut y aller même si on pense ne rien connaître à l'opéra.
Absolument.
On n'aura pas un discours pour nous expliquer qu'on manque des choses. Et si on a la chance, comme nous, d'aller à l'opéra régulièrement, c'est un sachet de Madeleine de Proust, quoi, avec toutes ces.
Enfin, on aimerait bien les avoir vues, toutes ces productions, parce qu'on se dit que, voilà, il y a quand même assez peu souvent d'événements. On parlera d'un événement dans quelques minutes avec le journal de Sud-Como. Pour l'instant, nous parlions d'Opéra Monde, qu'on vous enjoint vivement à aller visiter. C'est jusqu'au 27 janvier au centre Pompidou-Metz. Précision aussi que j'ai oublié de faire, il y a évidemment un catalogue de l'exposition Opéra Monde qu'on peut se procurer, édité par le Centre Pompidou-Metz. C'est l'heure du coup de cœur. Ce soir, d'Emmanuel Dupuis pour une sortie en DVD, celle de Vanessa de Barber. Vous voulez qu'on entende un extrait avant, après, pendant, au milieu, par-dessus?
Comme vous.
Qu'est-ce que vous préférez, mon cher Emmanuel?
Non, je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Donc, Vanessa, c'est un opéra américain, et j'ai envie de dire encore un opéra américain dont on n'explique pas l'absence sur nos scènes, parce que c'est un vrai chef-d'œuvre qui a été créé à New York en 1958. Et dans cet opéra, Barber développe un lyrisme totalement décomplexé, et qui n'a peut-être pas plu à l'avant-garde des années 1960 et 1950, ce qui explique que cet opéra peut-être est devenu assez rare, enfin en tout cas en Europe, parce qu'aux États-Unis il est quand même régulièrement monté. Alors c'est la première fois que cet opéra paraît en vidéo, c'est donc un événement. Il s'agit d'une production du Festival de Glyndebourne qui a été filmée en 2018. Et dans cette production, Keith Warner, le metteur en scène, souligne à juste titre les affinités entre le livret et les films noirs d'Hollywood. On pense notamment beaucoup à Hitchcock, pour l'atmosphère de mystère qui entoure l'intrigue, mais aussi pour le portrait féminin, le portrait de l'héroïne, qui est une grande névrosée, comme les aimait le réalisateur de Vertigo. La distribution ne comporte comme un maillon faible. Elle est dominée par Emma Bell, la bien nommée Emma Bell, qui campe une Vanessa à la fois très digne et très tourmentée. Et au pupitre, on retrouve un très grand chef de théâtre qui s'appelle Yacoub Roussa, qui exalte la noirceur qu'il y a dans la musique de Barber et même parfois la violence que l'on peut y entendre. Donc au final, c'est une grande réussite et c'est un excellent moyen de découvrir un grand chef-d'œuvre du XXe siècle.
Dont on écoute un extrait. Vanessa de Barber, le coup de cœur de d'Emmanuel Dupuis ce soir. C'est d'un DVD chez Opus Arte. Nous ouvrons le journal de la dispute que Lucille Gaumont ouvre à la page rentrée lyrique, puisque c'était l'événement de cette rentrée lyrique.
Oui, un nouvel Einstein on the Beach qui faisait la réouverture du Grand Théâtre de Genève dans une nouvelle mise en scène de Daniele Finzi-Pasca. Alors, qu'est-ce qu'Einstein on the Beach? Il faut revenir sur la genèse de ce spectacle hors norme créé pour la première fois le 25 juillet 76 au Festival d'Avignon. C'est le fruit de la rencontre entre un metteur en scène, Bob Wilson, et un compositeur, Philip Glass, autour de la figure du grand mathématicien. Un spectacle de 5 heures environ dont la musique répétitive a été écrite à partir de croquis dessinés par Bob Wilson, rassemblé autour de 3 thèmes, le train, le tribunal et l'engin spatial, autant de formes qui s'esquissent dans de vastes jeux d'ombre et de lumière géométriques, au carrefour entre les arts plastiques, la danse et l'architecture. Un spectacle qui est le fruit d'une collaboration étroite, chaque dimension, musicale, chorégraphique, visuelle, étant pensée en bonne intelligence entre Bob Wilson, Philip Glass, Lucinda Childs et Andrew de Groot. Un spectacle total s'il en est, repris depuis plusieurs fois dans le monde et dont on a du mal à imaginer des versions différentes et pourtant elles existent. Daniele Finzi-Pasca a relevé le défi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
47.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Who did get some wind for the sailboat? And it could get 48. 8. It could get the railroad for these work.
47.
And it could be 48.
32.
It could Frank. It could be Frank. It could be very fresh and clean.
92.
It could be a balloon.
Balloon. 47. 48.
All these are the days, my friend. And these are the days, my friend. 1, 2, 3, it could get some wind for the sea.
Alors il faut dire que Daniele Finzi-Pasca n'est pas le premier à se lancer. On a pu voir un autre Einstein on the Beach en 1988 à Stuttgart et puis en 2017 à Dortmund. Il semblerait donc qu'un interdit tombe. Il faut oser détricoter cette œuvre, faire fi de son intrication avec la mise en scène. Daniele Finzi-Pasca, probablement à raison, propose donc tout autre chose. On est très loin de l'épure et de la géométrie wilsonienne ici. Le spectacle est foisonnant et enchaîne des tableaux qui ressemblent à autant de numéros de cirque. Acrobate, clown, une danseuse pieuvre dans un aquarium, une sirène voltigeuse, des chorégraphies qui évoquent le cinéma muet, des effets de burlesque, le tout très coloré et très costumé. On sent que sur tous les plans, il s'agit de faire le contraire de Bob Wilson. Alors préférer l'aléa au chronomètre, la courbe au rectangle, le raté à la maîtrise, la chaleur à la froideur, l'accent italien, on l'entend, à la petite musique anglo-saxonne. Je suis pour ma part assez surprise du bon accueil qui lui a été réservé dans la presse, assez unanime pour louer à la fois la franchise de cette rupture avec le mythe et les partis pris de la nouvelle mise en scène. On salue un retour salutaire à la narration, au figuratif, la joie et l'intelligence des tableaux, l'onirisme et la poésie de la proposition. On se pose assez peu, en revanche, il m'a semblé, la question de l'articulation entre cette nouvelle proposition et la musique de Philip Glass, interprétée à la fosse par de valeureux étudiants de la Haute École de Musique de Genève et des musiciens sous la baguette de Titus Engels. Et pourtant, c'est là que c'est passionnant, me semble-t-il. Est-il vraiment possible de voir autre chose sur cette musique-là? Bref, Einstein on the Beach est-il une partition?
Alors, on a un plateau assez peu représentatif, visiblement, oui. En tout cas de la critique, puisque, alors, Lucille Gaumont, vous avez eu la chance, comme vos camarades Charles Ardan et Emmanuel Dupuis, d'aller à Genève. Je n'ai pas eu cette chance, sinon le plateau, je crois, aurait été encore plus déséquilibré, d'après ce que j'ai vu et entendu. Mais il s'agit de répondre à votre question, et Charles Ardan a une réponse positive, visiblement.
Oui, alors si le plateau est déséquilibré, je vais essayer d'appuyer de tout mon poids sur le côté positif, mais je ne vais pas avoir à me forcer. Peut-être parce que, en fait, moi, je je conçois pas bien le postulat de départ en fait de la question, qui est de se demander même si, comment, quand on peut faire après Bob Wilson. Bien sûr, évidemment, quand une mise en scène a à ce
moment-là marqué
une œuvre. Évidemment aussi, on va me rétorquer que là, c'est quand même particulier parce que Bob Wilson, il n'a pas fait que mettre en scène, comme ça a été très bien dit, comme on l'a vu d'ailleurs à l'exposition, il est à l'origine, pas seulement dans une collaboration, mais même à l'origine, l'initiateur du projet par ses dessins qui ont été mis en musique au piano.
Par les textes aussi.
Exactement, mais moi, en rentrant dans la salle, j'ai essayé un peu de faire comme dans un sas, hein, un peu comme dans un pédiluve, et de me dire, allez, j'efface toutes les images que je peux avoir d'avant, et j'ai essayé de rentrer dans cette proposition pour ce qu'elle est, et à partir de là, j'ai été hypnotisé pendant 4 heures. C'est aussi le génie de cette musique-là qui met dans cet état, qui met dans cette transe.
4 heures, c'est court. Hein.
4 heures, c'est
ils
très, très court.
Ils ont réduit ou ils ont plus vite? Qu'est-ce qui se passe?
Ils ont un peu réduit parce qu'à la base, ça dure 4h40.
Et... ouais, voire 5 heures, ça dépend des soirs.
Mais je précise qu'on a le droit de rentrer et de sortir guise. Mais... moi, évidemment, j'étais cloué à mon siège pendant les 4 heures sans interruption. Évidemment, j'ai fait la blague de dire que ça prouve la relativité, la théorie de la relativité du temps d'Einstein, puisque 4 heures passent environ en 20 minutes à peu près, qu'on est fasciné. Et j'ai regardé cette mise en scène, pas pour me dire qu'est-ce qu'elle fait à contre-pied de Bob Wilson. Je pense pas du tout que le metteur en scène veuille faire l'inverse. Je pense qu'il a envie de présenter quelque chose d'onirique et aussi les thèmes d'Einstein, des épisodes de vie. Il s'est inspiré d'autres photographies. Il n'y a pas que Einstein on the beach. Il y a Einstein fait du vélo, Einstein fait classe, etc. Avec plein de concepts. J'aimerais en parler beaucoup, beaucoup plus, mais je vais.
Mais non, mais la parole circule. Lucille Como, précision.
La question n'est pas ce que le spectacle fait à Bob Wilson, c'est aussi ce que le spectacle fait à la musique de Philip Glass. Ça, pour le coup, c'est assez peu commenté dans les articles que j'ai pu lire. Quel est le rapport exactement entre les deux? Parce que pour le coup, alors, la question se pose là.
Une réponse d'Emmanuel Dupuis, peut-être.
Oui, là effectivement, je rejoins Lucille, il y avait un vrai problème. Moi, j'ai vu un spectacle assez joli, avec certes des moments de poésie, des moments d'humour aussi, d'humour parfois un peu appuyé d'ailleurs. Mais j'ai vu surtout des images plaquées sur la musique et sans véritable interaction entre ce qu'on voit et le sens profond en réalité. Chez Bob Wilson, il y avait de vrais, on parle d'abstraction, mais il y avait quand même de vrais moments de théâtre. Ouais. On se souvient quand même tous de scènes absolument mythiques, que ce soit la scène du train de nuit, la scène du tribunal, la scène de l'envol du vaisseau spatial à la fin. Or, ces scènes dans la nouvelle mise en scène ont disparu. Donc on a l'impression que la musique tourne dans le vide parce que la musique décrit ces scènes-là. À la fin, par exemple, on entend le vaisseau spatial, mais on ne le voit plus. Donc la fusion qui était à l'œuvre, qui faisait le miracle de la production de 1976, n'est plus de mise. D'ailleurs, bon, la dimension chorégraphique n'existe pratiquement plus, alors que Lucinda Childs, à l'origine, était vraiment...
oui, c'est l'une des trois co-créatrices de cette œuvre.
C'était un des piliers de cette création. Et un des symptômes de cette dichotomie entre les arts, d'une certaine manière, à laquelle on assiste, c'est que de toute la représentation, une seule chanteuse montera sur scène. Tous les autres resteront cloués au fond de la fosse et ce sont sur la scène des mimes ou des acrobates qui évoluent, mais c'est comme si les choses évoluaient de façon parallèle, sans effectivement le côté fusionnel auquel on a assisté avec la production de 1976 et qui nous frappait, qu'on a tous en mémoire.
Monsieur le Comor.
Du coup, est-ce que ça veut dire que cette musique-là, elle est impossible à entendre autrement? Parce que ça pose vraiment des questions presque de musicologie sur le statut de la musique de Philip Glass. Est-ce qu'elle peut exister? Est-ce qu'on peut l'écouter sans l'image?
Seul, hein. Ça,
oui, mais on l'écoute seul en ayant les images en tête de Bob Wilson.
Pas forcément.
Du coup, elle peut en effet être interprétée dans une nouvelle mise en scène.
Alors, Philip Glass a composé d'autres opéras de coupes beaucoup plus classiques, comme Akhenaton ou Satyagraha, qui sont des opéras qui peuvent tout à fait faire l'objet de différentes mises en scène. Mais là, c'est un cas extrêmement particulier, parce que normalement, à l'opéra, le metteur en scène se coule dans une forme préétablie qui a été conçue par le compositeur. Or là, dans Einstein on the Beach, c'est très différent. Les images illustrent la musique, certes, mais autant que la musique illustre les images. Il y a une interaction créatrice permanente. Ils ont vraiment travaillé ensemble. Et pour moi, séparer Bob Wilson de Philip Glass dans Einstein on the Beach, c'est comme séparer Mozart et Daponte. Ça n'a pas de sens.
Charles Ardenne.
Il y a d'autres opéras de Mozart sur des livrets qui ne sont pas de Daponte.
Oui, mais enfin, je parle des trois Daponte, évidemment. Où là, Bon, vous m'avez compris.
Oui, il fait sûrement pas comprendre parce qu'il est à court d'arguments, Charles Ardel.
J'ai vraiment pas compris. Je vais relancer, du coup, par rapport
Ils sont inséparables de la création même de l'œuvre et donc de son interprétation.
D'accord, mais ça voudrait dire que sinon on changerait le livret sur la même
musique. Voilà.
Bah non, mais c'est pas du tout la même chose.
Bah si, parce qu'il y a tout un texte qui est important, évidemment, dans Einstein Beach.
Mais là, justement, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on retrouve la dramaturgie de Bob Wilson dans la musique en elle-même. Elle est tellement intégrée, elle est tellement insérée que cette nouvelle proposition fonctionne. Et évidemment, la nouvelle proposition visuelle, elle n'est pas du tout synchrone. Ce serait ridicule de faire 1, 2, 3, 4 des mouvements cadencés au même rythme. Et là, il y a des tableaux qui sont aussi mémorables. On a, voilà, Einstein à la plage, Einstein fait du vélo. On a le vaisseau spatial, c'est son vélo qui va dans les airs, il faut regarder plus loin. Et évidemment, en plus, ce qu'elle permet, c'est autre chose que Bob Wilson. Elle permet de montrer le côté amusant, ludique, didactique. C'est une mise en scène circassienne. Elle montre aussi tous ses référentiels, ses roues, ses balles, ses piscines qui tournent, qui tournoient. C'est très... Alors, j'ai lu, j'ai entendu que il y avait un problème d'esthétique, mais au contraire, il y a des tableaux, mais magnifiques, en ombre chinoise, en impression. Et dire que c'est pas chorégraphié, je trouve ça un peu insultant pour ce qui se passe sur le plateau.
Moi, je pense que c'est chorégraphié. Moi, ma vision du spectacle a été un peu particulière parce qu'il y a un tiers actant dans la vision qu'on en a, quand on a eu la chance de voir Einstein on the Beach version Bob Wilson, c'est que c'est impossible d'entendre la musique sans avoir les couleurs, les mouvements, les images. Et du coup, ça crée un type de spectacle qui est extrêmement particulier, mais pourquoi pas, ça peut être très intéressant, où il y a une sorte de tiers actant, quelque chose qui s'active dans la mémoire du spectateur qui n'est pas là.
Mais en fait,
et
vous
du coup,
reprochez...
qui est un niveau supplémentaire ou alors qui se met en comparaison, auquel cas c'est compliqué, je trouve, de faire quelque chose d'aussi bien. Et je ne reproche pas, c'est une expérience très particulière.
Mais vous reprochez à cette proposition le fait que vous-même n'arrivez pas à vous défaire d'une vision préalablement gravée.
Je pense
gravée.
Que ce n'est pas moi-même, je pense que c'est très difficile pour tout spectateur qui a vu. Oui, mais je pense que c'est particulier à cette œuvre-là.
Oui,
il y a très peu d'œuvres dans le répertoire.
Les John Adams, Peter Sellars aussi, par exemple, qui sont faits en collaboration très étroite, et ben on a vu d'autres versions, d'autres mises en scène qui
C'est très différent. Ce sont des
opéras. Les œuvres sont différentes.
Les opéras de John Adams dont vous parlez, ce sont des opéras qui ont en réalité une coupe, une forme très classique.
Ah bah la coupe d'Einstein on the Beach, elle est limpide. Il y a même les nids. Vous avez même des genoux qui intercalent entre les tables. Ah bah si.
Ça c'est votre avis, mais bon. Ceci étant, après moi je trouve qu'il y avait un problème esthétique parce que le côté circassien, les néons, les jeux d'ombre, les jeux de miroir. Franchement, moi, j'ai trouvé ça plus daté que la production de 1976, qui elle, n'a pas pris une ride.
Bon, ce sera le parallèle conclusif sur ce petit journal dont on referme les pages. Et avant de conclure le jeu de la dispute avec David Dana qui nous rejoint pour nous rappeler la question d'hier et la réponse du jeu...
Qui est le fondateur du premier laboratoire de police d'identification criminelle? Et la réponse est Alphonse Bertillon.
Ce soir, des invitations à gagner pour le spectacle Trust Shakespeare, Alléluia de Dieudonné Nyanguna. Place à gagner pour la représentation du 21 septembre, c'est samedi à 18h, à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, autrement dit la MC93. La question?
Quel est le nom de la compagnie théâtrale de Dieudonné Nyanguna?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Raïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et David Dana. Prise de son, Valentin Bobinet. Réalisation, Alexandre Fougeron. Demain, une dispute art plastique. En compagnie de Sarah Hélermeyer, Fabrice Bousteau et Christophe Rioux, nous parlerons exclusivement de la Biennale de Lyon.